Vous allez vous rappeler qu'il y a 2 semaines, nous nous sommes transportés à Corinthe. Nous étions dans une église où il y a du chaos. Des frères s'amènent au tribunal en procès. Les gens s'exaltent à cause de leur don spirituel. Il y a certains qui sont malades et même morts à cause d'un comportement vraiment blasphématoire à la Sainte-Cène. Il y a un membre de l'Église qui couche avec sa maman et même les païens autour sont scandalisés. Il y a des gens qui commencent à douter de la résurrection et j'en passe. Nous voulons comprendre comment une église peut tomber dans le chaos, parce que nous sommes une église qui peut tomber dans le chaos. Et donc, nous nous adressons ce matin au verset 10 à 17, donc la suite de ce premier chapitre. Dieu nous dit par son apôtre, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage. » Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion ou le même jugement. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit, donc c'est répondu, chacun de vous dit, « Moi je suis de Paul et moi d'Apollos. » Et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. Ah! Et puis il se rappelle, on écrit, carrément en écrivant, en dictant, « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. » Il ne sait même pas. Apparemment, ce n'était pas très très important dans son ministère. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. » Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Et je dirais juste ceci, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on ne minimise pas l'importance du baptême. Je dis, ce n'était pas important pour lui d'être celui qui baptisait. Donc il déléguait ce travail comme son Seigneur a délégué le travail de baptiser et ne baptisait personne lui-même. Nous dit l'Écriture. Ce n'est pas normal. C'est le premier point de notre sermon ce matin. Quelqu'un vient dans notre église pendant quelques semaines. Il est en affaires, visite d'affaires, déplacement d'affaires. Et donc, il a le temps d'être avec nous dans nos différents rassemblements. Vraiment de passer du temps, de voir comment nous sommes avec le Seigneur et les uns avec les autres. Et quand il repart pour en parler à quelqu'un d'autre qui nous connaît, un autre chrétien ou un pasteur qui a été notre pasteur à un moment donné, qu'est-ce qu'il dirait de cette église, de vous, s'il pouvait passer du temps avec nous? Eh bien, les gens de Chloé n'étaient pas des membres de l'église de Corinthe. Ne pensez pas que quand Paul dit « les gens de Chloé m'ont dit » parce que Paul est à Éphèse et des gens de Chloé viennent de Corinthe, probablement des chrétiens d'Éphèse qui ont été en déplacement à Corinthe. Nous ne savons pas si Chloé elle-même était chrétienne, mais les gens de Chloé l'étaient sans doute et viennent vers Paul avec inquiétude. Et le rapport n'est pas glorieux. Donc, vous voyez au début de ce passage dans le verset 11 que Paul dit qu'il a appris de ces gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous, et des discordes un peu curieuses. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas et moi de Christ. » C'est-à-dire que dans cette église, les chrétiens maintenant sont repartis dans des factions selon l'attachement à un leader ou à l'autre. Moi, j'aime Paul Washer. Moi, j'écoute John Piper. Vous voyez ce que je veux dire? Je cite quelques noms que je sais que vous connaissez. Je pourrais en citer aussi de noms en France, mais je ne veux pas mettre quelqu'un là-dedans. Ce qui est aussi curieux, c'est que ces gens, Paul, Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, Apollos, ne voulait rien faire ou avoir à faire avec ça. Paul écrit pour faire « Moi, j'ai pas été crucifié pour vous. » Et Apollos non plus. Il veut pas qu'on le suive. Pourquoi est-ce que nous le savons? Parce que si vous tournez dans le dernier chapitre de l'Épître, dans le chapitre 16, au verset 12, apparemment, Apollos était auprès de Paul à Éphèse. Apollos qui a été à Corinthe, ok? C'est pour ça qu'on le suit parce qu'il est très éloquent, il a passé du temps à Corinthe. Mais maintenant, il est à Éphèse. Et donc, quant au frère Apollos, dit Paul, je l'ai beaucoup exhorté à se rendre chez vous avec les frères, mais ce n'était décidément pas sa volonté de le faire maintenant. Il partira quand il aura l'occasion. Je lis entre les lignes, mais probablement Apollos est parti dégoûté de Corinthe à cause de ses factions. Moi, je suis d'Apollos et il ne veut même pas revenir. Il ne veut même pas revenir. Il ne veut pas attiser le feu. Donc, vous pouvez vous demander, ouais. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une préférence pour un prédicateur? Oui. Dieu peut utiliser une personne d'une manière particulière pour vous nourrir. Mais ça va beaucoup au-delà de ça. Vous le voyez dans le mot discorde. Il se range dans certains camps de manière à ne pas aimer les autres. Ah, toi, tu aimes Paul? Il n'est rien. Et des discordes commencent. Si vous voulez, regardez le verset 6 dans le chapitre 4. Après avoir discuté ces choses pendant un moment, Paul dit, « Frère, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et moi à cause de vous. Vous apprendrez ainsi en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et nul de vous ne s'enorgueillir en prenant parti pour l'un contre l'autre. » C'est pas juste d'avoir des camps amis, c'est d'avoir des camps opposés. C'est vraiment curieux pour des chrétiens, n'est-ce pas? Et vous pouvez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'une église locale comme la nôtre et comme beaucoup dans ce pays, se met-il dans ce travers d'exalter des âmes et de les suivre? Parce que je le vois tout le temps. Je le vois tout le temps. Je rencontre un nouveau chrétien, et de quoi me parle-t-il? Est-ce que tu connais un tel? Il ne me parle pas de Jésus-Christ. Il veut savoir si je connais tel prédicateur en France. Et si je ne le connais pas, il est un peu frustré, un peu déçu, et très étonné. C'est curieux, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai eu cette expérience, et c'est le signe que quelqu'un a une attitude qui n'est pas spirituelle, et qui va, tôt ou tard, en exaltant les âmes, mener au discorde. mener au discorde. Donc, nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce qui a attiré les chrétiens autrefois et qu'est-ce qui nous attire maintenant vers un homme? Et il y a beaucoup de gens qui sont plus attachés à un homme qu'à Jésus-Christ. Et quand cet homme n'est plus là, on voit que leur foi n'est plus là. Mais qu'est-ce qui attire Et c'est tout simplement leur manière de parler. C'est intéressant, n'est-ce pas? C'est leur manière de parler, de prêcher, d'enseigner. J'ai dit bien leur manière. Si vous ne croyez pas qu'on peut avoir une grande puissance sur quelqu'un par l'éloquence, par la manière de parler, regardez quelques films au sujet d'Hitler. Vous avez vu? C'est incroyable. La puissance qu'il a pu avoir, surtout par sa manière de parler. Je crois que le cas le plus pitoyable que j'ai jamais vu de ça remonte d'environ 30 ans. J'étais dans une église, dans un autre pays, où je suis resté plusieurs jours avec un jeune homme qui venait de professer la foi et être baptisé. Jeune homme, je ne sais pas, 25 ans. Et donc, il avait été dans une église, dans une autre ville, pendant une certaine période, la première année de sa vie chrétienne, et maintenant, il venait d'arriver dans cette autre église et cette autre ville. Alors, il me parlait constamment de l'église d'où il venait, parce que le pasteur était un homme, j'ai connu son nom tout de suite, qui était mondialement connu. Je suis allé en Afrique du Sud, des gens me disent, on écoute les cassettes de tel homme. Je vais ici, je vais là. Partout où je suis allé, j'ai rencontré des gens qui écoutaient les sermons de ce monsieur. Grand prédicateur que Dieu a utilisé. Mais ce jeune homme, il m'a dit une chose qui m'a complètement époustouflé. Un jour, on discutait. Et il m'a dit, j'ai un problème, c'est que quand j'entendais monsieur Untel prêcher à l'église, ou ses collègues qui prêchaient tous comme lui, ils avaient appris à l'imiter sans le savoir. Et juste pour tester ça, moi, un jour j'ai mis une cassette d'un des autres prédicateurs de cette église, et j'ai dit à ma femme, viens voir qui j'écoute, c'est qui ? Elle m'a dit le nom du prédicateur principal. J'ai dit non, c'est pas lui, c'est un autre. Mais ils avaient tous appris à parler comme ça. Vraiment brillant, très précis, très éloquent et très émouvant. Et beaucoup d'autorité dans la parole. Alors ce jeune homme, il m'a dit, mon problème c'était quand j'écoutais ces prédications et je rentrais le dimanche à la maison et je lisais les évangiles, je trouvais que Jésus n'était pas du tout impressionnant à côté de ce prédicateur. Vous me croyez? Et donc, voilà ce qui se passe à Corinthe. Les gens qui commencent véritablement à oublier Jésus-Christ parce que quelqu'un, avec sa manière impressionnante, ou ses dons, ça peut être des dons légitimes, les fascine tellement qu'ils pensent que c'est ça qui est la grandeur. Quand nous lisons plus loin dans l'Épître, nous découvrons que Paul rétrécit le problème à deux personnes, lui et Apollos. Vous avez vu que je viens de dire, j'ai appliqué ces choses à moi et Apollos pour que vous appreniez en nous-mêmes. Et tout le long du chapitre 3, par exemple, tournez au début du chapitre 3, si vous voulez, le verset 4 à 6. Il dit ceci, quand l'un dit moi je suis de Paul et autre moi d'Apollos, donc il n'y a plus de Céphas, etc. N'êtes-vous pas des hommes? Qui est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Et puis dans le verset suivant, j'ai planté, Paul a planté, Apollos a arrosé, et donc tout est au sujet de ces deux hommes, parce que c'était les camps principaux. OK? Et pourquoi? Le livre des Actes, chapitre 18, nous dit ceci au sujet d'Apollos. Je vous lis, ne tournez pas. Il y avait un juif, pardon, c'est pas là. Je vais aller juste un peu plus loin. Oui, 24. Oui, un juif du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, était arrivé à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Et un peu plus loin, il réfutait avec vigueur les Juifs en public et démontrait par les Écritures que Jésus était le Christ. Homme formidable. Homme formidable. Mais homme doté d'une très grande éloquence et capacité de convaincre. Alors, qu'en est-il de Paul? Quand nous lisons au sujet de Paul, nous voyons autre chose. Dans 2 Corinthiens, si vous avez envie de regarder avec moi, vous pouvez tourner au chapitre 10 et les versets 10 à 11. Nous découvrons tout autre chose. Paul dit. Car, dit-on, voilà ce qu'on dit au sujet de Paul, les impressions que Paul donne aux autres, car, dit-on, ses lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Ou bien, si vous voulez aller un peu plus loin, regardez le chapitre 11 et les versets 5 à 6. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien aux apôtres prétendus supérieurs. Il utilise un peu de sarcasme. Bien que profane pour l'éloquence, je ne suis pas pour la connaissance. Même si je suis un peu ordinaire, un peu vanille par rapport à ma prédication, un peu neutre, un peu pas exceptionnel, il dit, j'ai quand même de la connaissance. Donc voilà le problème et en fait, quand les gens de Chloé viennent raconter cela, c'est seulement le problème visible qu'ils racontent. Il y a des camps, il y a des discordes. Lundi, je suis de Paul, d'Apollos, parce que le vrai problème est plus loin, plus loin. Le vrai problème, c'est que les Corinthiens comprennent l'Évangile bien, mais ne voient pas comment l'Évangile redéfinit et transforme notre perspective sur 3 choses. Le leadership chrétien, la manière de prêcher l'évangile, et j'ai oublié le troisième, la spiritualité chrétienne. Et donc ils ont une sorte de spiritualité vraiment feu d'artifice, nous allons voir. Ils ont vu des leaders comme si nous appartenons à nos leaders, ils sont tellement grands, nous les appartenons. Et Paul va leur dire, non, 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 non. Si c'est Paul, Apollos, la vie, la mort, ça vous appartient. Les leaders chrétiens vous appartiennent, vous ne leur appartenez pas. Et deuxièmement, il va dire, vous appartenez à Christ. Donc ils ont tout confondu. Tout à l'envers dans la tête, c'est dans la tête. Et donc ça peut nous arriver aussi, d'avoir une compréhension des choses qui n'a pas été modelée et changée par l'Évangile. Et c'est exactement comme dans les religions païennes qui sont en train de fonctionner. Au niveau du salut, ils sont bien, mais cette compréhension de la croix et de l'Évangile n'a pas, je ne sais pas, n'a pas transparu dans toute leur manière de penser sur ces différentes choses. Ok, donc ça c'est le plus long des 4 points. Deuxième point, pourquoi est-ce que c'est grave? Si vous et moi, on est tombé ou on tombe un jour dans ce travers d'exalter des âmes, de mettre de l'importance, de la valeur sur des choses comme des dons, l'éloquence, une personnalité imposante, impressionnante, toutes ces choses. Pourquoi est-ce que c'est grave? Et pour cela, nous lisons les versets 13 à 17. Paul dit ici, Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous, ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé, et tel, etc. Et verset 17, « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse de langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » C'est fort, n'est-ce pas? Le problème, c'est le problème de mon ami il y a 30 ans. Si nous commençons à mettre de la valeur sur les dons, et l'éloquence et des choses comme cela, alors la vraie grandeur, qui est le Dieu qui s'abaisse, qui souffre par amour, qui gémit, qui meurt sur une croix à la place des pécheurs pour les racheter, il devient le grand oublié. Parce que cette grandeur-là, n'est pas la grandeur qu'on est en train de chercher. C'est pour cela que Paul dit, est-ce que moi j'ai été crucifié pour vous? Parce que pour Paul, vous savez les amis, votre salut éternel vient d'une seule source, d'une seule personne. C'est pour cela qu'il dit, est-ce que Christ a été divisé? Est-ce que Christ a été reparti en morceaux? Pour qu'il soit plus là, c'est pas grave, on a Paul, on a Paulus. Non, non, non. Il y a un seul sauveur, un seul fondement. Et pour vous, c'est l'enfer éternel. C'est la misère. Sans Jésus de Nazareth et ses souffrances au calvaire. C'est tout. Et je vous assure que pour l'éternité, tout bien que vous allez jamais avoir, toute proximité à Dieu, toute félicité, toute transformation ici-bas vient d'une seule source, et ça c'est Jésus qui achète ça pour vous en s'abaissant et en souffrant à votre place. Tout, tout, tout. Même les dons de Paul et Apollos viennent de la croix de Jésus, viennent de lui, viennent du fait qu'il a dû souffrir et mourir pour obtenir ses dons pour l'Église. Et c'est pour cela que Paul dit, est-ce que j'ai été crucifié? Parce que c'est une façon de dire, le bien ne vient pas de l'éloquence. Le bien, un bien spirituel durable, ne peut pas vous venir du fait qu'un homme prêche bien. Ça ne peut vous venir que de la croix du calvaire il y a 2000 ans. Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur percé coulèrent l'eau, le sang qui régénère. Ou bien, viens mon âme et contemple un objet sans exemple, le Dieu sauveur en croix, on le frappe, on l'outrage, on lui crache au visage, il expire enfin sur le bois. Tu te mets à ma place et ta croix change en grâce. Pas l'éloquence d'Apollos, pas l'éloquence de Paul, mais ta croix change en grâce ma condamnation. Sur ta tête sacrée, d'épines couronnée, tu portas, et toi seul, et pas Paul, et pas moi, et pas l'Apollos, toi Jésus, tu portas ma confusion. Mais le dernier strophe, c'est le plus important. Je te suis redevable, mon sauveur adorable de tout ce que je suis. Mon âme et tout mon être à toi seul doivent être c'est le droit que tu t'es acquis. C'est le droit que tu t'es acquis. J'aime penser souvent à ça, je ne sais pas vous, mais ça me fait un grand bien de penser que la mort de Jésus est un rachat, qu'il est venu obtenir le droit de m'avoir à lui et personne d'autre. Donc, Paul dit, donc, est-ce que j'ai été crucifié pour vous? Est-ce que vous avez été baptisé en mon nom? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il semblerait que certains dans l'église de Corinthe attachaient une importance à la personne qui les baptisait. Et que c'était vrai dans les religions païennes de l'époque, que celui qui te baptisait, ou qui te baptisait, qui te faisait le rite d'initiation, devenait ainsi ton, je ne sais pas quel était le nom, ton mystificateur pour toujours, enfin, devenait la personne que tu, ton gourou, en quelque sorte. Et il semblerait que cela est en train de se passer parce que Paul insiste beaucoup sur le fait que, écoute, j'ai baptisé personne. Comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous avez été baptisé en mon nom. Et vous savez que Paul insiste sur l'idée d'être baptisé, en fait, littéralement, dans le nom de Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand nous sommes baptisés en la mort de Jésus-Christ, cette mort qui nous rachète pour lui-même, et nous devenons le sien. Être baptisé en son nom veut dire que le nom de Jésus-Christ est mis sur toi comme ton propriétaire. C'est tout. Tu es à lui. Et Paul dit, vous n'avez pas été baptisé. Quand je vous ai baptisé, ou quand Apollos vous a baptisé, est-ce que vous avez entendu, je vous baptise au nom de Paul, Apollos, pour lui appartenir? Loin de là! Vous avez été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais baptisé parfois dans le Nouveau Testament au nom de Jésus. Parce que c'est par le Père et par la puissance du Saint-Esprit que Christ vient vous racheter pour lui-même. Pour lui-même. En tout cas, vous appartenez à Jésus-Christ. Donc, ça c'est... Donc, le deuxième point, pourquoi est-ce que c'est grave? C'est tout simplement parce que Christ lui-même devient le grand oublié. Christ est sa croix, qui est la source de tout, qui est tout, à qui nous appartenons même. Il est un peu dans l'arrière-fond de certaines églises. On parle de Jésus, on le loue, mais quand les chrétiens viennent chez vous, ils ne parlent pas de Jésus, ils parlent d'un tel. Vous voyez? C'est extrêmement grave. Qu'est-ce qui est normal? J'ai commencé tout à l'heure en disant ce n'est pas normal, la situation, je suis d'Apollos, je suis... Qu'est-ce qui est normal? Regardez le verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Ce qui est normal pour cette église, c'est pas de schismata. Ça, c'est le mot pour division. Et vous voyez ce que nous utilisons en français, des mots qui viennent de là, des schismata. Pas de division. Et en fait, ce mot signifie déchirer un vêtement. Et donc, il est normal qu'il n'y ait pas de... que le tissu de notre communauté soit pas déchiré. Moi, je suis pour ça et toi pour ça. Ça, c'est normal. Positivement, c'est d'avoir, et il utilise le mot même trois fois, le même langage, la même pensée, le même jugement. Et en fait, ici, il ne parle pas de doctrine, parce qu'il n'y avait pas de problème de doctrine vraiment. Nous avons la question de la résurrection à la fin. Mais l'évangile lui-même n'est pas mis en question comme dans les Galates, n'est-ce pas? C'est plutôt ce que l'évangile doit changer dans notre manière de voir le leadership et la spiritualité et la prédication de l'évangile. C'est la transformation que l'évangile doit opérer. Parfois, je viens dans une église, j'entends des gens prier, je dis, j'ai envie de dire, est-ce que vous comprenez l'évangile? Que de prier comme ça. Que de se vanter, s'exalter dans la prière, comme si tu n'es pas un pécheur sauvé par une croix. Donc Dieu lui-même doit être mis à nu terriblement à cause de toi. Et te sauver comme ça. Quelqu'un comme ça, il ne vient pas à Dieu en s'exaltant. En tout cas, qu'est-ce qui est normal? Le même langage, c'est-à-dire, nous voyons les choses de la même manière, et quand vous voyez les choses de la même manière, quand vous parlez de la même manière. Quand vous parlez au sujet d'un prédicateur ou un pasteur, vous parlez comme un chrétien. Vous appréciez, vous aimez, mais vous ne vantez pas. Christ est vanté au milieu de nous. Et Paul, quand il dit que nous devons dans cette église avoir la même pensée, le même jugement, ça montre qu'on ne peut pas arrêter les discordes dans une église, surtout une église comme ça, sauf en changeant de perspective. Le même jugement, la même pensée. Vous voyez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'unité chrétienne, et on dit que la clé pour l'unité, c'est oublier les différences de pensée et de doctrine. Paul dit exactement le contraire. Il dit, pour être unis, il faut penser de la même manière. Il faut arriver à comprendre les choses comme Dieu les dit. Je termine. Donc ça c'est la normalité. Je loue le Seigneur que dans l'Église, jusqu'ici, à part quelques courts moments de couac, nous avons joué ici d'une harmonie formidable. Bon, vous allez dire, on n'est que 10 aujourd'hui, c'est pas difficile. Mais nous ne sommes pas toujours 10. Et donc, en tout cas, nous remercions le Seigneur. Mais il y a un seul remède pour que ça continue. Et ça, c'est le dernier point. Quel est le remède? Et c'est le verset 17. Et je finis rapidement. Je lis le verset 17. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Alors, je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, parce que ce verset est une transition pour toute la prochaine partie que nous allons voir dans les semaines à venir. Et Paul va juste nous poser le remède là, et il va le développer. Mais vous voyez où il revient, après toute cette discussion, il revient droit à Christ et à sa croix. Il dit, moi, c'est pas ceci ou cela, je m'exalte pas dans les rites, en les pervertissant, le rite de baptême, ou les hommes, ou les dons, ou l'éloquence. Moi, je veux vous parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ à sa croix. Et je veux vous parler d'une manière qui ne cache pas la gloire d'un Dieu qui s'humilie. Parce que si moi, je m'élève en vous prêchant, vous allez voir qui? Vous allez me voir. C'est aussi simple que ça. Mais vous devez voir Christ. Et il faut que notre manière de parler, notre manière de chanter, notre manière de regarder les leaders et votre manière de mener si vous êtes leader et notre manière de spiritualité, que tout cela soit à l'ombre de la croix, formé, modelé, redéfini par la croix de Jésus-Christ, le Dieu qui s'abaisse, qui ne s'élève pas, mais qui s'abaisse. Et à l'ombre de la croix, nous aurons l'unité et nous serons bénis. Nous allons chanter au Seigneur un chant qui nous aide à lui dire que lui, il est la source intarissable de tous nos biens, le 255.